Bonjour à tous et bienvenue sur Bac FM 106.1 dans l'émission À quoi qu'on joue, votre rendez-vous mensuel sur le jeu et sur l'actualité ludique de Nevers. Je suis Daoud du Conservatoire du jeu et j'animerai cette émission. Pour rappel, le concept de l'émission est très simple. Chaque mois, je reçois un invité qui vient nous livrer son actualité ou partager avec nous sa passion. Aujourd'hui, je reçois non pas un, mais deux invités, Camille et Erwan, passionnés de jeux de plateau. Bonjour Camille, bonjour Erwan.
Bonjour Daoud.
Bonjour.
Alors, bienvenue dans Quoi qu'on joue. Comment ça va ?
Ça va bien, merci.
Ça va nickel.
Bon, impeccable. Alors Camille, Erwan, est-ce que vous pourriez, en quelques mots, vous présenter pour nos auditeurs ? Camille ?
Oui. Alors, moi, je viens de région parisienne. J'ai rencontré Erwan à Bourg-en-Bresse. Et c'est là qu'on a commencé surtout à jouer ensemble et à se passionner pour le monde du jeu il y a quelques années maintenant.
D'accord. Et toi, Erwan ?
Eh bien, moi, j'ai grandi à Nevers. J'étais au lycée Raoul Follereau. Et donc, pour le travail, j'ai pu rencontrer Camille et on est ensuite redéménagé ici pour s'installer à Nevers.
Ah, formidable. Et donc, c'est comme ça que nous, on s'est rencontrés, puisque vous êtes venu faire quelques parties un peu avant le tout premier confinement au Conservatoire du jeu.
Oui.
Et donc, on s'est rendu compte ensemble que... Enfin, moi, je me suis rendu compte que vous étiez des mordus de jeux de plateau.
Un petit peu.
Oui, un peu.
Ah, du coup, on a été très contents de se rencontrer, on va dire. Alors, j'ai un petit gimmick, moi, dans l'émission, une petite habitude. À chaque invité, je dis, eh bien, notre émission, elle s'appelle « À quoi qu'on joue ?» Et toi, à quoi tu joues ? Alors, vous, à quoi vous jouez ?
Eh ben, nous, on joue à beaucoup de gros jeux de plateau. Et, par exemple, on joue beaucoup au Dilemme du Roi, en ce moment.
Ah, qu'est-ce que c'est, le Dilemme du Roi ?
Eh ben, c'est un jeu où on va un petit peu reproduire des intrigues politiques autour des conseillers d'un roi. Et on va devoir essayer d'influer sur la décision du royaume et sur les orientations du royaume et sur son futur.
D'accord. Et c'est votre jeu du moment, ça, là. En ce moment, vous jouez à ça ?
Ouais, alors, depuis, c'est une campagne, donc en fait, c'est une partie sur le long cours qui dure depuis maintenant plusieurs mois.
Tiens, alors, pour nos éditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est qu'une campagne en termes de jeu, est-ce que tu pourrais nous expliquer, Erwan, ce qu'est une campagne ?
Et ben là, de manière générale, c'est un enchaînement de parties. Donc c'est un jeu qui se joue non pas sur une seule partie, mais sur plusieurs, souvent entre 10 et 15, on va dire, et sur laquelle chaque partie est unique et aura des conséquences sur les suivantes. Et on enchaîne au fur et à mesure, et nos décisions ont des conséquences sur le futur, sur l'enchaînement du jeu.
Alors moi, je connais les campagnes en JDR, en jeu de rôle, hein, où on garde le même personnage et puis de partie en partie, on suit sur la même intrigue ou la même aventure. Mais alors, comment ça se passe en jeu de plateau ? On garde des notes communes d'une partie à une autre, j'imagine ?
Oui, alors il y a des notes. Il y a spécifiquement dans ce jeu-là, on a des autocollants, des choses à écrire. Donc le jeu est détruit après être joué. Il peut être joué qu'une seule fois.
Ah, d'accord. Alors, le dilemme du roi, le dilemme du joueur.
Exactement, c'est ça.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs ? Ça me permet de faire une petite parenthèse. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces jeux à usage unique, si je puis dire, qui doivent être détruits après utilisation ? Camille ?
Souvent, c'est des jeux qu'on va quand même pouvoir réutiliser parce que la plupart du temps, on va pouvoir retélécharger les petites choses qu'on a dû utiliser et qui sont plus utilisables pour une prochaine session de jeu.
Ouais.
Donc, ça peut être intéressant pour pouvoir revendre le jeu ou continuer justement.
Alors, moi, je pensais plutôt à des titres comme Exit où, une fois que la partie elle est faite. Alors, je sais bien que le joueur qui a participé à la partie n'est pas censé y rejouer parce qu'il connaît tous les secrets du jeu. Mais je trouve ça, sur le concept du jeu, intéressant que le jeu doive être détruit ou abîmé pour pouvoir accéder à la fin du jeu. Et d'un autre côté, je trouve ça, je ne sais pas comment dire, embarrassant de devoir me dire j'ai acheté un jeu entre 15, 20 euros, voire plus. Et une fois la partie finie, le jeu, je le mets à la poubelle. Alors, je sais pas. Moi, je trouve que ça m'embête. Voilà. Alors, après, j'ai pas monté le conservateur du jeu avec d'autres pour justement qu'après une partie on mette nos jeux à la poubelle. Mais je trouve ce concept, même le système d'autocollants. J'ai vu que certains jeux, les autocollants se collent sur le reste du matériel du jeu au fur et à mesure de ta partie. Et puis une fois qu'il y a plus d'autocollants, quoi. C'est très consommable, quoi.
J'avoue que pour certains jeux, oui, c'est sûr, on a à la fois les gros jeux, on va dire, qui se jouent sur plusieurs dizaines d'heures et qui sont pas vraiment rejouables. Bon, par contre, après, c'est assez rentabilisé par le temps de jeu, on va dire. Par contre, les petits jeux comme Exit, comme tu viens de citer, c'est un peu plus embêtant dans la mesure où on va y jouer une heure et après c'est terminé, on peut plus le revendre. Fini, il est consommé, il est mort, on va le plier, le déchirer, on va en faire de la bouillie. Donc, bah oui, c'est une expérience unique. Alors après, j'espère que les éditeurs, j'ai pas fait tous les Exit, mais généralement c'est du papier, du carton, des choses un petit peu. On n'a pas de plastique, on n'a pas des choses qui sont, préjudiciables pour l'environnement.
Oui, de toute façon, oui. Oui. Mais c'est vrai que j'avais pas envisagé que, effectivement, sur un gros jeu à campagne, même si c'est un usage unique, on va être sur des dizaines d'heures de jeu malgré tout, oui.
Et puis souvent sur certains de ces jeux de plateau, le plateau reste utilisable à la fin avec tout ce qu'on aura rajouté justement comme petit autocollant, comme étiquette. Et on peut continuer à faire des parties avec le plateau terminé en fait. Parce qu'en fait pendant toute la campagne, on aura révélé différentes choses. Et à la fin du jeu, on va pouvoir jouer avec toutes ces choses en même temps d'un seul coup en gardant le même plateau. Sur les gros jeux de plateau en général, c'est comme ça.
D'accord, mais j'ai pas encore fait de jeu de plateau à campagne récent. J'en ai fait il y a très longtemps avec à l'époque c'était du Warhammer Quest, je crois, de mémoire, où effectivement on gardait un personnage, c'était comme HeroQuest dans le monde de Warhammer. Ouais. Donc on allait dans des donjons, on faisait le donjon, et si on ressortait du donjon vivant, on avait quelques interactions entre deux parties où on pouvait dépenser ses pièces d'or, revendre le matériel, s'en acheter du nouveau, et ensuite on allait faire le donjon suivant avec le même personnage, jusqu'à ce qu'on le perde. Mais il n'y avait pas de ce qu'on appelle le roleplay en jeu de rôle, c'est-à-dire il n'y a pas d'interprétation de personnage, c'était vraiment que du jeu de plateau en jeu de plateau. Mais d'ailleurs, si quelqu'un a un Warhammer Quest et qui ne sait pas quoi en faire, il peut contacter le conservateur du jeu, on en fait charme. Non, en préparant l'émission, on avait dit qu'on avait parlé un peu de Seven Wonders le duel. Vous m'aviez dit que vous étiez pas mal, fan.
On y a beaucoup joué.
Et moi aussi, j'ai beaucoup joué à Seven Wonders le duel. Et je voulais qu'on en parle juste un tout petit peu là en début d'émission parce qu'il y a une nouvelle extension qui est sortie il y a déjà quelques semaines qui s'appelle Agora et qui vient complémentariser le jeu de Antoine Boza. C'est la seconde extension, donc on peut jouer avec les deux extensions et le jeu de base et ça fait des grosses parties. Je crois que vous l'avez testé.
Oui.
Et alors qu'est-ce que ça donne avec les deux extensions tout ensemble?
Ça devient pour moi un jeu expert, justement, on va en parler aujourd'hui. À la base, Seven Wonders Duel, pour moi, c'est un petit jeu rapide et sympathique qui va du coup se jouer à deux. Et en rajoutant les extensions, on rajoute beaucoup plus de stratégies, de moyens différents pour gagner la partie. Et du coup, ça en fait un jeu un peu plus complexe, mais du coup assez intéressant, surtout quand on a bien pratiqué le duel de base. Les extensions apportent vraiment quelque chose de plus.
Ouais, c'est ce qu'on a trouvé nous aussi. Alors moi, j'ai pas testé les deux ensemble encore, mais c'est sur ma liste de tâches à faire avant la fin de l'année. Alors effectivement, tu le disais Camille, si on se voit aujourd'hui ensemble, si vous êtes mes invités, c'est pour qu'on puisse traiter, si je puis dire, deux sujets. La première, c'est qu'on va parler un peu de jeux de plateau expert, et ensuite vous nous présenterez une petite sélection de jeux pour bien débuter une ludothèque pour les gens qui aimeraient bien s'y mettre. Alors on va attaquer d'abord avec qu'est-ce que c'est qu'un jeu expert ?
Eh ben, un jeu expert, on va dire, c'est un jeu qui demande un petit peu d'assimilation de règles, un petit peu d'investissement pour en comprendre les règles et pour être capable de le jouer, plus que une simple lecture en 5 minutes. Il y a pas mal de concepts différents, il y a pas mal de subtilités différentes. Après, sans que ce soit non plus forcément extrêmement compliqué à alambiquer, mais ça demande quand même de base un minimum d'investissement et de concentration.
D'accord. Alors, on peut peut-être déjà nettoyer quelques clichés, si je puis dire, de c'est quoi un jeu expert, parce que ce terme de jeu expert, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Bah, ce terme, c'est le terme générique utilisé, mais ça veut pas dire qu'il faut être expert pour y jouer, en fait. Ça veut juste dire que ça va être un gros jeu, un petit peu plus poussé, effectivement, qui va prendre plus de temps. Moi, j'aime pas trop, du coup, ce terme expert, parce que ça peut fermer des portes et on se dit « Ah, ça va être trop difficile », alors qu'en fait, non, pas spécialement. C'est juste qu'il faut prendre le temps d'aller dedans, en fait.
Oui, d'ailleurs, c'est peut-être même un terme qui va évoluer, puisque le terme expert, c'est pas les joueurs qui ont inventé ce terme-là. Je sais pas si ça vient des éditeurs de jeux, mais en tout cas, les remises de prix, comme à l'As d'Or, ils ont une catégorie expert. Après, après la catégorie famille et enfants, alors que finalement le terme jeu pour joueur pourrait coller aussi, ou peut-être connaisseur, je sais pas.
Ouais, il faudrait une autre appellation, il faudrait, alors je sais pas, j'ai pas de formule magique. Après, il y a certains éditeurs qui le collent même sur la boîte, je pense à Yellow notamment, qui ont une catégorie Yellow expert qui est labellisée, alors que clairement certains jeux qui sont dans cette catégorie-là sont même pas des jeux experts, en fait, en vrai, ils sont très accessibles et donc ça colle vraiment pas du tout pour le coup, quoi. Donc
la première chose qu'on peut dire sur un jeu expert, c'est que si vous voyez écrit jeu expert sur une boîte, vous faites pas trop de soucis d'emblée.
C'est ça, exactement.
Un jeu, il y a des règles de jeu. On s'habitue de plus en plus aux jeux d'ambiance ou qui coûtent pas très cher, qui sont des petites boîtes avec des règles qui tiennent sur 2-3 pages maxi. Mais un jeu de société, un jeu de plateau, les règles, ben 5-6 pages, c'est une bonne moyenne. Et ben un jeu expert, il y en aura peut-être un petit peu plus.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre finalement si on veut pratiquer un jeu expert? À quoi on peut s'attendre, à quoi on doit s'attendre, est-ce qu'on doit se préparer?
Moi, je pense qu'un jeu expert, c'est un jeu qui va ouvrir un petit peu de multiples possibilités d'aller gagner la partie et de faire des points de victoire. Et du coup, dans un jeu expert, il faut forcément bien réfléchir à ce qu'on va faire et déterminer un peu une stratégie dès le début pour essayer de savoir où on va aller. Parce que dans un jeu expert, on va pas pouvoir tout faire. Et du coup, il faut vraiment savoir là où on veut se diriger pour éviter de partir un peu partout et puis de s'égarer.
Alors, tu dis qu'il faut avoir une stratégie, mais encore une fois, pour les auditeurs qui nous écoutent, il faut pas croire que forcément tous les jeux qu'on va parler qu'on va ranger dans la catégorie expert sont forcément des jeux de stratégie où il faut réfléchir énormément pour monter une stratégie de jeu.
Non, bien sûr.
Quand on dit autour d'un jeu de plateau qu'on doit prendre une stratégie, c'est que on peut prendre un exemple d'un jeu qui, à mon avis, n'est pas un jeu expert, c'est le Seven Wonder Duel, où pour gagner, on a trois possibilités. On peut gagner soit avec les cartes rouges par les forces militaires, soit par les cartes vertes avec la science, soit juste avec finir la partie et comptabiliser les points et voir qui a le plus de points. Donc effectivement, quand on joue un jeu comme ça, d'emblée, pendant la partie, on va se choisir une stratégie de jeu, c'est-à-dire soit jouer l'armée, soit jouer les sciences, soit jouer la partie, on va dire normalement, avec des guillemets. Donc c'est ça, quand on dit qu'on doit avoir une stratégie dans un jeu expert, c'est qu'à un moment, il y a plusieurs moyens de faire des points de victoire, et il faut choisir dans quelle catégorie on va se mettre, parce qu'on peut pas toutes les faire.
Oui, clairement, quand on est dans ce genre de jeu, en fait, au début, on va commencer un petit peu au pif, enfin, connaisseur ou pas connaisseur de jeu, on attaque un nouveau jeu de cet acabit, on va commencer, on va dire, tiens, je vais tenter de faire ce genre de choses. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher, puis on aura envie de refaire une deuxième partie pour se dire j'essayerai bien autre chose, j'essayerai bien de faire ça mieux, de faire ça différent, etc. Et au fur et à mesure des parties, on va un petit peu plus saisir la profondeur du jeu et ses possibilités.
Oui. Ça me rappelle un jeu que j'avais beaucoup aimé, qui était sorti il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, qui s'appelait Anno 1701. Donc, qui était inspiré au niveau du graphisme du jeu vidéo, mais en réalité, c'était un dérivé des Colons de Catane. Donc, le Colon de Catane, l'un des premiers jeux de plateau à avoir percé en France et tout ça, où c'est un principe de cumul de ressources et puis ensuite de placement sur le terrain. Et il y avait effectivement plusieurs façons de gagner avec des tuiles qu'on tirait aléatoirement. On en a fait des dizaines et des dizaines de parties et on gagnait régulièrement de façon différente. Enfin voilà, c'était le petit souvenir du joueur. Alors, je vous propose qu'on fasse une petite coupure musicale. Alors, Camille, tu nous as amené un morceau de Polo et Pan qui s'appelle Canopée.
Oui.
Bon, alors c'est parti, on écoute ça tout de suite.
Proche de l'équateur, à un point précis. Les peur moi et luxuriante. Dirige un Goliath exubérant. Des arbres millénaires nous ont adoptés. Et nous vivions heureux dans la canopée. Jungle sauvage.
C'était Canopée de Polo et Pan. Donc c'est Camille qui nous a apporté cette chanson, ce morceau. Pourquoi Camille, tu nous as amené ça ?
Moi j'aime beaucoup ce morceau parce que il est à la fois doux et en même temps je trouve qu'il donne plein d'énergie. Donc j'aime bien écouter ce morceau.
Bien.
Voilà, ça me met en joie.
Eh bien merci. Alors juste avant la coupure musicale, nous étions en train de parler de jeux experts. Reprenons le sujet. Moi, quand on parle de jeux experts, j'ai que des vieilles références qui me viennent en tête. Je pense par exemple la première version du jeu Civilization où la partie elle durait entre 10 et 12 heures. Comment c'est maintenant la durée d'une partie d'un jeu expert? Si là on déballe une boîte, on lit la règle et on fait une partie, non pas un jeu en campagne ni rien de tout ça. Il faut s'accrocher aussi toute une nuit pour pouvoir jouer ou c'est plus cool?
Non, maintenant globalement on va dire qu'un jeu expert moyen c'est 2 heures de partie avec une bonne demi-heure pour appréhender les règles en avance.
D'accord.
Ça se calcule aussi souvent par nombre de joueurs, en fait. Si on est 3 ou 5, ouais. Je dirais c'est à peu près entre 30 minutes et 1 heure par joueur. Donc, dès qu'on est 3, il faut compter 3 heures. Et puis, si ouais, on est 5 plus, en fait, ça va plus se compter comme ça sur les jeux dits experts.
Oui, pour que chacun ait le temps de pouvoir faire son tour de jeu, en fait.
Oui,
c'est ça.
Parce que toujours, pour faire référence à Civilization, moi, j'ai souvenir de tours de jeu qui étaient extrêmement longs. Et pas d'interaction entre les joueurs pendant que chacun faisait son tour. On trouve toujours des mécaniques qui ressemblent à ça. On est toujours dans ce découlé-là.
Ça dépend, il y a un petit peu de tout. Oui, on a toujours des comme ça, effectivement. Mais moi, en tout cas, pour ma part, je prends pas mal de temps pour réfléchir. Et du coup, ça me permet, tout le temps que les autres vont passer à jouer et à faire leur tour, de pouvoir bien réfléchir au mien. Et en général, il n'y a pas trop de temps perdu, quoi. Même si, effectivement, les tours peuvent être parfois un peu longs. Ça dépend vraiment des jeux.
Il y a encore beaucoup de jeux maintenant. Il y a maintenant beaucoup de jeux où justement ils essayent d'optimiser un petit peu ça en faisant des tours plus courts mais plus nombreux,
ouais.
Avec moins d'action ou alors peut-être un petit peu moins de choix, sans pour autant sacrifier sur la profondeur du jeu. C'est assez compliqué finalement de faire un jeu simple mais profond.
Mm-hmm.
Donc il y a beaucoup de jeux qui s'axent un petit peu dans cette optique-là plutôt que d'avoir quelque chose où il faut réfléchir 10 minutes à chacun de ses tours.
Alors, toujours pour faire référence à Civilization, et je promets c'est la dernière fois, hein, mais j'ai le souvenir aussi, donc je disais les parties, nous on partait pour 10 à 12 heures pour une partie de Civilization. Sauf que c'était le genre de jeu où parfois, au bout de 2 ou 3 heures de jeu, donc 3 ou 4 tours, tu te rendais compte que t'allais pas gagner, quoi, et que pour toi le jeu, t'allais le subir, si je puis dire, jusqu'à la fin. Vous m'avez parlé en préparant l'émission de jeux où si on voit qu'on a perdu, on a des moyens de pouvoir abandonner, je sais pas comment dire, de décrocher.
Ouais, c'est ça,
comment ça marche exactement?
C'était sur le jeu Through the Ages, à travers les âges, où en fait effectivement à un moment on peut déclarer l'abandon de la partie. Et moi, je me souviens même d'une partie où j'ai utilisé ça un peu comme stratégie en disant, tu m'attaques moi, je vais abandonner et du coup, c'est toi qui vas perdre. Donc, alors que si tu attaques l'autre personne, je reste et à ce moment-là, tu seras pas dernier, quoi. Donc.
Ah ouais, tout au bluff.
Ouais.
C'était même pas du bluff parce que c'était vrai qu'en attaquant à ce moment-là, en fait, sur le long terme, ça affaiblissait et ça permettait à l'autre joueur de gagner finalement, alors que en ne l'attaquant pas, ça me permettait d'être plus fort pour la suite.
Donc ça pouvait rentrer directement dans la mécanique du jeu et dans l'une des stratégies qu'on peut mettre en place pour remporter la partie.
C'est
intéressant, vachement intéressant. Ah oui. Alors vous me disiez aussi que moi je me souviens, c'était important de gagner sur des jeux comme ça. Et quand je vous en ai parlé, vous m'avez dit, c'est plus en demi-teinte en fait. C'est gratifiant de gagner, mais la victoire n'est pas primordiale.
Disons qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans ce genre de jeu, et c'est quand même intéressant de réussir à faire des belles actions. Ça apporte beaucoup de satisfaction de réussir à faire la petite combinaison qu'on voulait, de réussir à placer tel pion où on voulait, de réussir à mettre en place telle stratégie. Même si au final ça permet pas d'avoir la victoire, il y a des fois, il y a vraiment juste la satisfaction d'avoir réussi quelque chose sans parler de victoire ou de défaite, juste on a réussi à construire quelque chose.
Oui, une partie de jeu expert, c'est pas un match de boxe, ça peut être gratifiant d'être deuxième, quoi.
C'est ça, exactement, ouais.
Bon, d'accord, voilà. Vous vouliez rajouter quelque chose sur les jeux experts ?
Non, après, moi, je voulais bien insister sur le fait, déjà que ce terme, il est assez finalement assez peu judicieux et que faut vraiment pas avoir peur de ce genre de choses et que c'est pas parce qu'un jeu est labellisé 2 heures de temps et puis jeu expert, je sais pas quoi que ça sera hors de portée de quelqu'un qui connaît que le Uno et le Monopoly.
Oui.
Il suffit d'avoir envie de lire un petit peu, de se poser sur une table avec le plateau en face, de regarder un petit peu et ça va tout seul, quoi.
Et dans l'image populaire, je crois qu'il y a quelque chose une image un peu négative du joueur de jeu expert, c'est-à-dire que il faut pas confondre, je sais pas, enfin, un figuriniste va vous dire qu'il va vouloir vous initier à Warhammer. Effectivement, il y a quand même beaucoup de règles, chaque pion a sa propre règle. Parfois,
ouais,
on a des poignées de règles, des poignées de dés, pardon. Le jeu expert, c'est pas ça.
Non, pas du tout.
C'est une forme de jeu expert, le jeu de figurines, n'en doutons pas. Mais le jeu de plateau expert, ce n'est pas ça. Ça reste malgré tout un jeu de plateau qui est censé être accessible à tout le monde. On avait dit qu'on dépoussiérerait un petit peu l'image du vilain geek, le petit gros avec des boutons et des lunettes qui s'enferme toute la soirée pour lire les règles de son jeu. Bon, c'est pas ça du tout, même.
Ouais, c'est sûr. Bien sûr.
Faut nous le confirmer, faut que vous le disiez.
Ouais, c'est pas ça.
Bien. Alors, on va enchaîner. Vous nous avez proposé de nous faire une sélection de jeux pour bien débuter une ludothèque, je vais pas dire une collection de jeux, mais pour bien débuter sa ludothèque et pour pouvoir jouer avec un peu tout le monde. Sur quels critères vous êtes parti pour sélectionner les jeux ?
Oui, en fait, on a essayé de sélectionner des jeux qui pourraient plaire à tout le monde. Donc, on a essayé de trouver des jeux qui parlent un petit peu de différentes thématiques et puis qui utilisent différentes techniques de jeu, notamment, qui permettent de commencer à côtoyer un petit peu les différentes manières dont on va pouvoir jouer.
C'est donc un top 5.
C'est ça.
On attaque ce top 5 avec le premier jeu.
Oui, c'est un jeu d'ambiance. Le premier jeu d'ambiance, ça va être Top Ten. Pour moi, c'est un peu le jeu auquel on joue le plus avec nos amis en ce moment. C'est un jeu, en fait, on va vous exposer une situation. Et puis, il va falloir que vous avez des notes de 1 à 10. Et il va falloir que vous répertoriez les différentes informations en allant crescendo. Donc, par exemple, ça doit être de 1, ça va être les choses les moins pertinentes, et 10, ça va être les choses les plus pertinentes par rapport à la situation qu'on vous a exposée. Par exemple, vous devez sauter d'un avion, qu'est-ce que vous prenez qui est le plus pertinent ? Si vous avez 1, vous allez dire, je sais pas, une banane, et si vous avez 10, vous allez dire un parachute. Sauf qu'il faut que la personne qui vous a posé cette question réussisse à répertorier de 1 à 10 vos réponses, donc il faut que ce soit de 1 à 10 de plus en plus pertinent.
D'accord, très bien.
Voilà, donc c'est des bonnes parties de rigolade en général. Voilà, je conseille pour le jeu d'ambiance Top 10 d'Aurélien Picolet.
Très bien. Alors ensuite, vous nous avez sélectionné un second jeu.
Oui, alors dans tout ce qui est jeux de société, il y a toute une grande catégorie, c'est ce qu'on appelle un peu les jeux de traîtrise, les jeux de à rôle caché, tous ces jeux qui impliquent un petit peu de bluffer, de mentir, de faire des coups bas à ses futurs ex-amis. Et dans cette catégorie, il y a un très bon jeu qui s'appelle Cerber, de Pierre Buti. C'est un jeu de un petit peu un jeu de course, un petit presque comme un jeu de loi finalement, où il va falloir réussir à atteindre le bout du plateau. Il y a différents obstacles et on est poursuivi par Cerber, car on est en enfer et le but c'est d'atteindre les Champs-Élysées, c'est-à-dire de traverser le Styx et d'arriver au bout des enfers, poursuivi par Cerber qui veut nous croquer. Ce jeu-là, il aura la particularité que quand on n'arrive pas à être suffisamment rapide, on va devenir Cerber et notre rôle deviendra de réussir à croquer les autres. On va donc changer de but du jeu en cours de partie. Au début, on commencera par essayer d'aller plus vite possible et puis on peut à un moment donné, si on est en train de perdre, entre guillemets, on se rendra compte qu'il est peut-être plus intéressant de faire demi-tour, de se faire manger par Cerber pour essayer d'aller manger les autres.
D'accord.
Un jeu pour perdre ses amis.
C'est ça.
Ouais, ça a l'air sympa comme tout.
Et tout l'intérêt du jeu vient du fait qu'on est très incité à s'aider les uns les autres. On a des cartes à jouer qui sont bénéfiques pour nous, mais qui sont encore plus bénéfiques pour les autres. Donc l'entraide est encouragée, mais en même temps, la traîtrise est aussi encouragée.
D'accord. Bon, donc Cerber, tu nous as dit de
Pierre Buti.
De Pierre Buti. Alors ensuite, un troisième jeu.
Oui, on a choisi un jeu de deck building parce que ça nous paraissait important de parler de deck building.
D'accord, bon, donc, on pourrait peut-être déjà expliquer ce que c'est qu'un deck building.
Tout à fait. Donc le deck building, c'est une mécanique de jeu où en fait on va au fur et à mesure construire son jeu de cartes. On va partir avec une dizaine de cartes au début. Souvent, il va y avoir par exemple 7 pièces dedans et puis 3 pouvoirs. À son tour, on va jouer 5 cartes et du coup, au fur et à mesure, ça va nous permettre en fait d'acheter des cartes pour améliorer justement son premier jeu de base qu'on va pouvoir utiliser par la suite. Et au fur et à mesure, en fait, on va gagner plus de pièces, plus de pouvoirs et créer comme ça une forte progression qui va nous permettre d'aller affronter de plus en plus de monstres ou de gagner encore plus d'argent, de découvrir plus de trésors et vraiment d'avoir une progression comme ça qui est super intéressante et très fructifiante.
Oui, alors quand tu dis acheter des cartes, c'est au sein même du jeu. Dans les règles du jeu où effectivement vous avez de la monnaie dans le jeu et vous achetez des nouvelles cartes pour enchérir. Donc alors ce jeu de deck building que vous nous avez sélectionné.
On a sélectionné Clank, qui est un jeu de Paul Denen.
Ouais.
Et du coup, c'est un jeu qui va consister à aller explorer un donjon, tout simplement, pour aller en rapporter le plus possible de trésors.
Ouais.
Ce jeu-là, en fait, l'intérêt du deck building, c'est qu'au début, on a un petit paquet de cartes qui va nous permettre d'avancer très peu, d'affronter des monstres très faibles. Et le but, ce sera donc d'acheter des nouvelles cartes plus fortes pour réussir à avancer plus, affronter des monstres plus puissants et descendre plus loin dans le donjon pour rapporter les trésors les plus précieux. Sauf que le problème, c'est qu'un dragon garde le donjon.
Ouais.
Et il sera donc possible de remonter ou il sera possible de ne pas réussir à remonter. Et tout l'intérêt, ce sera du coup de ne pas aller trop loin, de savoir quand s'arrêter, de savoir dire « bon, stop, c'est bon, j'ai suffisamment dans ma poche, je remonte pour éviter de finir sans rien ». Et de perdre la partie alors qu'on était en bonne position.
D'accord. Donc voilà, donc du deck building en troisième choix. Quel est votre quatrième choix?
Le quatrième choix, il se porte sur Isle of Skye. C'est un jeu de pose de tuiles, en gros, où on va devoir constituer son royaume pour répondre à différents objectifs. Celui qui a le plus de tonneaux, celui qui a le plus de moutons, celui qui a le plus de routes connectées, ce genre de choses. Et tout l'intérêt vient du fait que ces tuiles vont être achetées aux enchères entre les différents joueurs. Chaque joueur va mettre aux enchères des tuiles pour les autres joueurs. Il sera donc possible d'acheter des tuiles des eaux, de les piquer, au contraire, ne pas les acheter pour que la personne en face n'ait plus assez d'argent pour en acheter de nouvelles. Et donc il y a toute une interaction qui vient vraiment enrichir ce jeu, qui est très profond et très très simple. C'est vraiment très très simple d'accès. Est très agréable à jouer.
Alors, au cas où nos auditeurs ne sauraient pas, quand on parle de jeu à tuiles, ce qu'on appelle une tuile dans un jeu de plateau, c'est une plaque en carton, à la manière d'un jeu comme Carcassonne, où on fabrique le plateau au fur et à mesure. On trouve des tuiles maintenant dans presque tous les jeux de plateau. Enfin, c'est devenu du matériel de jeu très, très courant.
Ouais, très courant. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup à Carcassonne. Les tuiles sont quasiment pas identiques, mais on retrouve un petit peu la même chose, les routes, les montagnes, etc.
Mais j'ai pas encore testé celui-là non plus.
Il est très,
mais
très bien.
J'ai vu la boîte, l'esthétique fait déjà penser à Carcassonne d'emblée.
Oui.
Enfin, ouais, y a quelque chose de commun. Alors si le matériel de jeu en plus est le même, enfin dans le même genre, c'est vrai que ça doit ressembler.
Ouais.
Et alors pour finir, vous nous avez sélectionné un cinquième jeu.
Oui, alors là pour le coup c'est un vrai jeu de gestion de ressources. Donc là on commence un petit peu à toucher au domaine des jeux dits experts justement dont on parlait.
D'accord.
Le jeu s'appelle It's a Wonderful World. Et c'est un jeu où en fait donc on a justement quelques cartes au départ qu'on va pouvoir acheter et ces cartes on va pouvoir les utiliser pour qu'elles nous permettent de produire des ressources ou alors pour justement les utiliser comme des ressources pour aller créer ces cartes et pouvoir avoir encore plus de ressources. Donc c'est vraiment un jeu qu'on appelle à moteur, c'est-à-dire où on a au départ un petit peu de ressources et on va au fur et à mesure en créer plus et en avoir de plus en plus au fur et à mesure du jeu. Et c'est ça qui est intéressant dans ce jeu de gestion de ressources.
C'est le genre de jeu, en gros, où au début, on aura très très peu de moyens pour acheter. Et en fait, il va falloir augmenter ses moyens. Mais sauf que si on passe la partie à augmenter ses moyens, eh ben, on ne gagne pas de points.
Et
donc
oui,
à un moment donné, il faut faire le choix d'arrêter d'augmenter ses moyens pour se dire « Allez, c'est bon, je commence à engranger des points de victoire.
Mm-hmm. »
Et il faut trouver cette articulation, il faut trouver ce moment. Et c'est des parties rapides et c'est des parties qui sont assez profondes et profondes en réflexion et en stratégie.
Très bien. Donc on récapitule. En jeu ambiance, vous nous avez sélectionné Top Ten. En jeu de traîtrise de fourberie, vous nous avez sélectionné Cerbère. En jeu de deck building, vous nous avez sélectionné Clank. En jeu de tuiles, Hill of Skyle. Et en gestion de ressources, mode un peu jeu expert, donc It's a Wonderful World.
C'est ça.
Alors, merci. On va refaire un petit interlude musical. On revient juste après cette petite coupure. On vous passe un petit morceau sélectionné par Erwan. Ultra Vomit avec Je collectionne des canards.
Dès qu'il y a un spot à la télé qui me parle d'un canard, j'y vais. Dès qu'il y a un spot à la télé qui me parle d'un canard, j'y vais. Je collectionne des canards. Je collectionne des canards par billets. Je collectionne des canards. Je collectionne des canards vivants. Dès que je surfe sur le web et qu'il bévent un canard, j'achète. Et si quelqu'un surenchérit, tardard, je surenchéris, chérie. Je collectionne des canards.
Wait.
Et voilà, c'était Ultra Vomit avec Je collectionne des canards. C'était le choix d'Erwan. Je sais pas si je te pose cette question, Erwan. Pourquoi tu nous as amené du Ultra Vomit? Qu'est-ce que ça t'évoque, Je collectionne des canards? Tu as des passions cachées?
Oui, en dehors des jeux de société, je collectionne énormément de canards. Non, plus sérieusement, c'est un groupe que j'affectionne beaucoup parce qu'ils savent ne pas se prendre au sérieux et pourtant ils sont très très bons dans ce qu'ils font. Les instrus sont vraiment excellents, les musiciens sont très forts, les morceaux sont bien montés, bien ficelés, bien faits. C'est pas juste des morceaux humoristiques pour faire de l'humour, juste pour faire des choses débiles.
Oui, oui, c'est vrai qu'ils se lâchent sur les paroles, mais bon, bah derrière...
Il y a un talent, il y a un vrai talent derrière et ça m'amuse beaucoup.
Papy aurait dit, et derrière il y a un orchestre hein, quand même. Alors, on a donc entendu votre sélection de 5 jeux pour pouvoir commencer, bien débuter une ludothèque. Mais à vrai dire, ce qu'on n'a pas dit à nos auditeurs, c'est qu'à la base, vous nous aviez fait une sélection qui était quand même un peu plus large. Alors, on s'était dit que vous avez sélectionné quelques autres jeux. On va les citer. Je vais vous laisser les citer et nous dire peut-être un tout petit mot dessus. Je vous écoute.
Ça a été très difficile de sélectionner que 5 jeux.
J'imagine.
Du coup, effectivement, on en avait pris un peu plus, toujours dans l'optique d'essayer de trouver des jeux qui peuvent plaire à tout le monde. On avait choisi un jeu par exemple sur des jeux de mots, pour changer un peu du Scrabble.
Ouais.
On avait choisi Mot Malin de Grégory Grard, qui est un jeu où on va devoir faire deviner des mots en associant différents autres mots. C'est pareil, plutôt jeu d'ambiance.
On avait sélectionné également The Crew, qui est assez connu pour être le premier jeu de pli coopératif. Mm-hmm. Donc comme la belote, mais en coopération pour réussir des missions. Et c'est passionnant, on s'y prend des heures et des heures comme la belote, mais avec des mécaniques bien plus modernes et bien plus agréables.
On avait sélectionné un autre jeu de pose de tuiles qui est Azul, de Michael Kiesling, qui est un jeu où en fait on va devoir recréer sur un petit plateau des carrés de faïence avec ces petites tuiles justement qu'on va devoir prendre au fur et à mesure. Et du coup, il faut réussir à sélectionner le bon nombre au bon moment pour le mettre au bon endroit.
D'accord.
On a sélectionné aussi dans une autre catégorie qui s'appelle les jeux à cocher. Ce sont des jeux où il va falloir écrire sur une feuille pour réussir à faire un maximum de points. Et dans cette catégorie, il y a Welcome de Benoît Turpin qui est vraiment excellent, où on va devoir construire tout un lotissement en numérotant des maisons de 1 à 15 de la bonne manière pour gagner le plus de points possible. C'est rapide et c'est parfait.
D'accord, très bien.
Et enfin, on ne peut pas ne pas parler des jeux d'escape game, bien sûr. Et oui. Nos préférés, c'est quand même les Unlock. donc voilà, toute la gamme des Unlock, on les a tous faits. On attend s'il y en a des prochains avec impatience.
Il y a une boîte qui est sortie il n'y a pas longtemps, non?
Oui, il y a une boîte qui est sortie il n'y a pas longtemps. On ne l'a pas encore faite, celle-ci. Et il y a aussi un Unlock Kid qui est sorti avec des mécaniques un petit peu, les mêmes mécaniques, mais simplifiées pour que ça soit plus accessible aux enfants. Et qui apparemment est également très très bien.
Alors le principe d'Unlock, on va vous l'expliquer si vous n'y avez jamais joué, parce que vous y jouerez certainement à un moment au détour d'une soirée.
Ouais.
Le principe, c'est qu'il faut télécharger une petite application sur son téléphone ou sur sa tablette.
Qui est gratuite
et qui va vous faire musique d'ambiance et interface de jeu. Et donc vous avez un set de cartes et vous allez suivre d'abord les ordres et les directions qui vous sont données sur les cartes, mais vous allez devoir aussi résoudre des énigmes, des casse-têtes, des choses comme ça, avec l'interface que vous avez sur le smartphone ou la tablette. Enfin, moi, je me souviens de... Parce qu'on peut pas trop en parler, sinon on vous spoil une partie, on vous révèle des choses. Donc, mais moi, je me souviens d'avoir utilisé des outils de menuisier sur mon téléphone. C'était très sympa. Et ça, on a réussi à fabriquer une table et une chaise, et on a avancé dans l'aventure. C'était génial. Non, il y en a pour tous les niveaux. Dans chaque boîte, il y a 3 scénarios. Alors évidemment, c'est des jeux auxquels vous n'allez jouer qu'une seule fois.
Ouais, bien sûr.
Mais dans chacun des scénarios, il y a un niveau de difficulté. On va dire, il y a un niveau débutant, un niveau moyen et un niveau confirmé. Mais en vrai, même si c'est votre première partie, je pense que vous pouvez vous lancer dans n'importe lequel des 3.
Ouais.
On peut rajouter aussi qu'ils ont sorti une boîte thématique Star Wars pour les fans. Alors j'ai fait qu'un seul scénario, moi, sur les 3 pour le moment. Mais les contrebandiers ont gagné, voilà. Je ne vous en dirai pas plus. Alors, si on veut avoir des informations sur le jeu de plateau en général ou sur comment constituer une ludothèque ou quelque chose comme ça, à part contacter les équipes du Conservatoire du jeu, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Il faut savoir qu'il y a des récompenses qui existent pour les jeux. En France notamment, il y a les As d'Or qui se passent à Cannes tous les ans.
Oui.
Et puis, moi, j'estime que c'est une bonne référence en fait quand on sait pas, quand on va dans un magasin de jeux et qu'on sait pas du tout quoi acheter, et ben se tourner vers un As d'Or, on sera vraiment pas déçu. Enfin, je vais presque dire jamais déçu.
Et puis, si vous ne suivez pas l'actualité ludique, de toute façon, les jeux qui ont été primés, qui ont reçu l'As d'Or, obtiennent une espèce de macaron qui est mis automatiquement sur la boîte, sur les
c'est
éditions
ça.
Suivantes. Oui. Donc, à la manière de The Crew, là, que vous
exactement,
avez cité tout à l'heure.
Oui.
Mais c'est vrai que, nous, au conservatoire, on a peu de jeux récents en temps normal, mais chaque année, on met un point d'honneur à acheter les 3 As d'Or. Donc, c'est la plus belle récompense en France, on va dire, l'As d'Or.
Oui, c'est ça. Oui.
3 jeux primés chaque année, un pour les enfants, un pour la famille et un pour donc dans la catégorie expert dont on a parlé tout à l'heure. À chaque fois, la sélection des 3 jeux est effectivement à chaque fois très bien. D'ailleurs, Unlock a été As d'Or en son temps.
Ouais.
Et Exit, je crois qu'il l'a été aussi.
Ouais. The Wonderful World aussi.
The Wonderful World.
Azul, enfin plusieurs Azul, des jeux dont on a cité.
Plusieurs jeux qui ont été cités aujourd'hui ont été As d'Or effectivement et je crois que c'est une valeur sûre que d'acheter un As d'Or aujourd'hui.
Oui, tout à fait.
Et sur Internet, si je cherche des informations, je peux les trouver où ?
Bah sur Internet, alors il y a vraiment énormément de choses qui se font maintenant, surtout sur YouTube notamment.
Ouais.
Il y a plusieurs chaînes qui sont très intéressantes. Il y a la chaîne du Passe-Temps, par exemple. C'est un magasin de jeux qui se trouve à Toulouse.
Ouais.
Qui font des vidéos énormément de top, qui suivent l'actualité, qui présentent les jeux qui sortent.
Tout à fait, j'ai déjà vu certaines de leurs vidéos. Oui.
Ouais, et qui ont le bon goût de ne pas, disons, de ne pas acheter et présenter des jeux qu'ils n'ont pas appréciés. C'est-à-dire que c'est vraiment que des choses qu'ils ont un minimum aimé qui présentent. Donc, en général, leurs sélections sont assez qualitatives et il y en a pour tous les goûts, vraiment du jeu pour enfants, voire même pour petite enfance, au plus gros jeu. C'est une chaîne de qualité. Et après, il y a différents blogs qui sont possibles, comme Des Clics Ludiques ou À quoi tu joues, avec un K.
Oui.
Qui sont du coup ça c'est un blog que j'aime beaucoup parce que c'est une famille qui fait ce blog, donc papa, maman, les enfants, donc ils jouent à des jeux familiaux principalement.
Oui.
Et chaque membre de la famille donne son avis sur le jeu, donc on a un avis de plusieurs personnes différentes et c'est très bien fait.
Ouais, c'est bien, ouais. Ouais, c'est
très bien écrit, très bien fait.
C'est une bonne idée. C'est ce qu'on fait quand on critique un jeu qu'on joue à 4 joueurs, sauf que généralement on a 4 joueurs qui ont à peu près la même tranche d'âge ou des passions communes. Quand c'est une famille, on peut être sûr déjà qu'on a le point de vue des enfants et des parents. Et
c'est ça.
Et c'est vrai que ça peut être intéressant quand on veut l'utiliser comme guide d'achat. Je crois qu'on peut citer aussi deux sites un peu, je sais pas comment dire. Les majors des sites internet sur le jeu, mais on a TrickTrack.
Ouais.
Si vous posez une question sur une sortie, sur un jeu ou sur un jeu sorti il y a longtemps, ils ont des piles et des piles de dossiers, tout est accessible. Et puis il y a aussi jeux.soc.free, le site de François Hafner de l'escalageux dans le 71, qui répertorie tous les jeux qu'il a et donc permet de connaître les différentes variantes, de trouver les règles ou des choses comme ça. Eh bien, je vous remercie, Camille, Erwan, d'avoir répondu à mes questions. Je reviens vers vous en fin d'émission.
Merci à toi.
Alors, c'est maintenant l'heure du programme des semaines à venir, des animations prévues. Alors, il y a un gros temps fort au mois de décembre. Ce sera le vendredi 17 décembre, en soirée au Palais du Cal. Ce sera la toute dernière, l'ultime session de notre scène de crime Les Enfants de la Feuille que vous avez pu découvrir au cours de l'été 2020. Et oui, il nous restait à cause de la pandémie une session à faire jouer. Elle sera donc là. Donc le rendez-vous est donné à 20h au Palais du Cal. Et pour les inscriptions, je vous renvoie directement vers nos événements sur Facebook ou sur notre site internet. Vous trouverez toutes les coordonnées utiles. Évidemment, il est plus que conseillé de réserver sa place si vous voulez participer à ce jeu. Évidemment, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter ou sur notre site internet leconservatoiredujeu.fr car le programme du mois de décembre est en pleine construction. Il y a énormément d'animations qui risquent d'être ajoutées d'ici là. Notre émission touche à sa fin. Camille, Erwan, un petit mot pour la fin ?
Bah, un petit mot, venez essayez de tester des jeux, lancez-vous, faut vraiment pas avoir d'a priori à ce sujet, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les âges, et il y a forcément quelque chose qui va pouvoir vous plaire, peu importe que vous ne connaissiez que 2 jeux en tout et pour tout, il y a forcément quelque chose qui peut vous plaire et qui peut vous faire entrer là-dedans, vous ne le regretterez pas.
Ah, c'est bien dit. Camille, t'as pas laissé grand-chose.
Hein. Je suis d'accord avec tout ce qu'il dit.
Voilà, très bien. Eh bien, merci Camille, merci Erwan d'avoir été mes invités pour cette 32e émission de À quoi qu'on joue. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le podcast de Bac FM sur bacfm.fr, mais aussi sur la chaîne YouTube du Conservatoire du Jeu. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain à la même heure, au même endroit. Et rappelez-vous, soyez ludiques.